Cinquième épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes. On a vu un putsch, on a vu le sexisme des hommes rouges dont on va beaucoup parler. Salut à tous, c'est Damien et bienvenue pour ce cinquième épisode de la saison 4 d'Autour du Feu, consacré aux armes secrètes. Avec moi toujours une team très sympa, avec quelqu'un qui était déjà venu la semaine dernière et qui revient aujourd'hui, notre voix de velours, c'est Gino. Salut Gino.
Salut Damien, salut tout le monde. Donc pour expliquer à tout le monde pourquoi je suis là, normalement je ne devais pas être là, mais on a une invitée, donc une ancienne candidate qui devait venir et qui a dû se décommander pour des raisons de force majeure. Donc on, bien sûr, si jamais elle nous entend, on la salue. Et j'espère pouvoir être pertinent sur cet épisode.
Ensuite, avec moi, c'est mon partenaire des live Twitch avec Alex Arbet. Donc, si vous pouvez aller voir sur Twitter, parce qu'on débrief et on joue, c'est assez sympa. C'est le truculent SLZ. Salut Arnaud.
Salut Damien, salut Gino et salut le prochain intervenant. Donc, je ne vais pas dévoiler, hein, tu le feras. Ça fait plaisir de revenir pour cette saison, parce que c'est la première fois cette saison. Une saison passionnante. Et un épisode de vendredi très passionnant où il y aura beaucoup de choses à raconter, donc je suis vraiment satisfait d'être là.
Et avec nous un nouveau, puisqu'il fait partie de la communauté depuis deux saisons déjà, et puis on l'a invité à venir débriefer avec nous, c'est Koala. Salut Koala.
Bonjour à tous, très ravi d'être ici pour participer au podcast.
Voilà. Alors du coup, on va commencer tout de suite, puisqu'on arrive sur le camp rouge, et on voit que les rouges sont tout à fait contents d'avoir éliminé Candice. Et est-ce qu'il y avait des choses un petit peu avant l'épreuve de confort qui ont attiré votre attention?
Il y a déjà eu Vincent qui a trouvé l'arme secrète chez les jaunes. C'était un petit peu le suspense. On savait qu'il avait eu l'indice, mais on ne savait pas quelle arme secrète c'était. Donc voilà, il l'a trouvé. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est le petit tout double. On ne sait pas quand est-ce qu'il l'utilisera. Pas grand chose à dire de cet arc pré-confort pour ma part.
En tout cas, c'était assez malin de sa part, moi j'ai trouvé, de faire ça donc au réveil. Et ça, on en parlait vendredi avec Gino notamment, c'est incroyable à quel point l'horloge interne, quand tu dors, peut être très forte. C'est-à-dire que lui, il s'est vraiment réveillé avant tout le monde. Il a pris la malle pour faire style, il allait la nettoyer donc face à la mer, en prenant bien soin de mettre le couvercle face aux gens pour pas qu'ils le voient. Et du coup, la tactique était absolument parfaite. Donc vraiment, bravo Vincent, qui est peut-être un des candidats jaunes, je dirais, les plus appréciables et qui apporte un petit peu, sa personnalité par rapport à une équipe jaune qui était peut-être un petit peu bourrine, notamment au niveau des hommes, sauf Flavio.
Personnellement, j'adore Vincent. Je trouve qu'il apporte une certaine fraîcheur aussi dans sa manière de faire, parce que c'est pas tout le monde qui aurait le courage d'inventer un plan comme ça pour récupérer un objet devant tout le monde. Bon, par contre, il a pensé aussi une certaine comédie, parce qu'il parle de discrétion, et le montage montre que c'est pas forcément la chose la plus discrète possible. Mais vraiment, il est très appréciable, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de cette arme, et s'il l'utilise, parce que j'ai pas spécialement l'impression qu'il en aura besoin, personnellement.
Surtout que j'ai en mémoire, il me semble que sur l'indice, sur le papier, pardon, ils mettent qu'il est utilisable jusqu'au premier conseil de la réunification. Donc, ils risquent de l'utiliser très rapidement et par obligation, sauf s'il ne veut pas se mettre en danger. C'est un peu le souci de cette arme secrète qui est limitée dans le temps. C'est soit il l'utilise et il peut se mettre en danger avec une voix de plus, soit il est totalement safe, il ne l'utilisera jamais. Quoi.
D'abord, je voudrais juste rappeler une chose, vu que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire « Non, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un de la production qui l'a réveillé. » Si, je vous garantis, l'horloge interne, ça, ça peut vraiment être radical quand on a quelqu'un qui a un don pour ça. Donc là-dessus, vous inquiétez pas trop. Je pense soit qu'il a une horloge interne de fou, soit qu'il a pas dormi une partie de la nuit, mais je pense vraiment pas qu'il y ait eu de trucage. Enfin, bon, je pense pas que beaucoup de monde le soupçonnait, mais autant le mettre au clair, vu qu'il y a, toujours une part de doute chez certains fans autour de Koh-Lanta. Maintenant, pour revenir autour du personnage, oui, c'est que c'est une bouffée d'oxygène dans l'équipe jaune, vu que sur les premiers épisodes, bon, même si maintenant on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de subtilité dans leur personnalité, mais disons que sur les premiers épisodes, on avait quand même l'impression que les hommes jaunes, c'était un peu tous, ils étaient un peu tous sur le modèle de brut, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient très costauds, qu'ils étaient très attachants, mais que voilà, ils étaient pas très subtils. Et là, ça nous a donné quand même un petite bouffée d'air frais d'avoir d'avoir un personnage qui nous semble un peu plus sensible, un peu plus joyeux, mais de manière générale, mine de rien, le montage ne le rend pas beaucoup plus subtil pour autant, parce que, en effet, mine de rien, on a bien montré que, même si jamais il était censé être discret pour récupérer son arme, bah, il l'a récupéré, mais il n'a pas été discret du tout. Je vois sur le chat, parce qu'on est de nouveau en direct, que quelqu'un dit qu'on ne voit pas assez si Flavio est bourrin ou pas. En effet, c'est une vraie interrogation qu'on peut se poser, vu que malheureusement, il n'est pas beaucoup montré au montage, alors qu'il a l'air au demeurant extrêmement sympathique. Espérons qu'on voit plus de lui à la réunification.
Alors, on passe tout de suite à l'épreuve de confort. Alors, une épreuve que beaucoup de gens ont eu du mal à lire, et je crois que c'est peut-être la première fois qu'on s'est dit à propos d'une épreuve qu'elle n'était pas ouf, en fait. C'est-à-dire que chacun avait une corde qu'il fallait dérouler, et il y en avait un parmi ceux-là qui avait une corde de 22 mètres pour pouvoir aller chercher un poignard, et après ça, aller chercher des pièces de puzzle pour faire une gouttière. Et il y avait un petit twist, c'est-à-dire que le perdant de cette épreuve avait un conseil surprise. Et ça, je vous posais la question déjà d'une, est-ce que cette épreuve, pareil, vous a plu, vous avez trouvé ça un peu random? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez, vous, des espèces de confort surprise? Est-ce que vous les trouvez... Est-ce que vous trouvez que ça fait bien dans le spectacle? Est-ce que ça donne du bon spectacle? Ou au contraire, est-ce que ça donne toujours des résultats qui ne sont pas forcément ceux de vos espérances? Du coup, tiens, je vais commencer par Arnaud.
Bah, le souci d'une épreuve de confort surprise ou avec un conseil surprise, c'est que l'élimination, il y aura moins de dimension stratégique. On prendra la personne qui était le plus en difficulté, et en plus de ça, pour les rouges, ils n'ont pas eu le temps de discuter vraiment du conseil parce que ils ont éliminé la veille Candice. Et donc là, le lendemain, limite 12 heures après, ils ont eu à éliminer un deuxième candidat. Donc, il n'y a pas eu de stratégie de fête. Il n'y a pas eu de mise en place ou quoi. Donc, ils ont pris la personne qui était la plus en difficulté après Candice pour l'éliminer. Donc, c'est bizarre comme façon de faire. On sait que la saison est un peu plus courte avec le même nombre de candidats que d'habitude. Donc, on se doutait qu'il y aurait quelque chose dans ce style-là. Mais bon, j'appelle ça une épreuve éliminatoire déguisée, en fait.
Et sur l'épreuve en tant que telle, t'en as pensé quoi?
Et l'épreuve en tant que telle, alors, il y a eu un débat parce que la corde, sur la longueur de la corde, voilà, c'était le hasard qui rentrait en compte. C'est pourquoi pas qu'il y ait des fois un petit peu de générateur de hasard dans les épreuves, tant que c'est une fois par saison ou vraiment de temps en temps, pas à chaque épreuve, parce que bon voilà, les épreuves c'est soit de l'habileté physique, soit de la décision, de la réflexion. Là, un petit peu de hasard, pourquoi pas. Après, il y avait de la réflexion au niveau du Pulse, mais c'était pas forcément hyper télégénique parce que c'était un Pulse un peu en 2D à plat. On voyait pas vraiment l'évolution de celui-ci, donc c'était un petit peu difficile à se rendre compte où en étaient les équipes.
Tout d'abord, je veux parler du fait que les candidats ont ramené leur sac pour l'épreuve. Et en tant que candidat, quand on a ça, on se dit peut-être qu'on aura un mélange d'équipes, peut-être que quelqu'un va aller en exil ou qu'il y aura un conseil surprise. Et à ce sens-là, il faut commencer un petit peu à réfléchir et... pour moi, on peut discuter sur le trajet, dire ah, s'il y a ça, il faudrait faire ça ou quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai que c'est très fouillis, surtout pour les rouges qui ont eu un conseil juste avant. Sur l'épreuve en tant que telle, le côté aléatoire, en épreuve de temps en temps, je trouve ça sympathique, mais pas quand on a une élimination à la clé à la fin, parce que ça fausse beaucoup de choses et c'est un petit peu comme si on tirait à pile ou face. Là, Myriam, chez les jaunes, a eu la corde la plus longue et c'était la personne la plus lente. Du coup, ils ont pris beaucoup de retard. Bon, après, avec le puzzle, ils ont su rattraper ce retard et gagner l'épreuve. Mais cette dimension d'aléatoire quand on a une élimination à la clé, je suis vraiment pas du tout fan. Je préfère que ça reste sur des conforts purs.
Alors, l'épreuve, je vais être honnête, je ne l'ai pas du tout aimée sur la dimension aléatoire, en effet. C'est-à-dire que sur une épreuve, ça peut arriver qu'il y ait plus ou moins de réussite. Et ça, voilà, c'est normal. Je serais tenté de dire, justement, ils essayent de s'inspirer un petit peu du sport. En effet, en sport, il y a toujours des moments où on a plus ou moins de réussite. Le seul problème, c'est que là, ils ont vraiment voulu générer de la chance de manière tout à fait volontaire. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas. C'est-à-dire, c'est qu'on ne laisse pas vraiment les candidats mettre de leur destin. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, vu que, comme je le disais, sur le chat, pendant l'épisode, parce qu'on a un chat sur le serveur Discord d'ADEF, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à rejoindre le serveur.
Quelle magnifique promo.
Formidable.
Mais voilà, pour revenir à l'épreuve, c'était qu'on en était au point où je me demandais bah, pourquoi vous faites pas un Shifumi à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu limiter l'irruption de la chance dans le jeu. Il faut que les candidats respectent de leur destin. Et là, disons que c'est vraiment un moment où les candidats ne sont pas du tout maîtres de leur destin. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne vraiment beaucoup. Après, par contre, la deuxième partie était bien, certes, pas assez visuelle, mais disons que ça, c'était une bonne partie génératrice de suspense, et ça manque un peu cette saison. C'est que cette saison, on a beaucoup d'épreuves où c'est facile de créer des écarts qui sont irréversibles. Et ça donnait pas mal de fois où la production essayait de nous vendre un suspense alors qu'on voyait à 10 bornes qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est peut-être la tendance lourde sur les épreuves qui me gêne le plus dans Koh-Lanta. C'est le nombre de fois où on a une épreuve, il y a une équipe qui est loin devant, et il y a Denis qui essaye de nous dire « Attention, ils reviennent à grands pas » alors qu'on voit bien qu'il y a 3 km d'écart. C'est vraiment assez risible. Après, voilà, pour revenir par contre sur le twist du conseil surprise en lui-même, ce qui me gêne, ce n'est pas de combiner une épreuve d'immunité et une épreuve de confort, même si c'est mieux de dire que c'est une épreuve d'immunité ouvertement, c'est pas une épreuve de confort. Dites que c'est une épreuve combinée si vous voulez, mais... Et donc là, le fait de combiner les épreuves, ça me gêne pas du tout. Le fait d'avoir deux conseils dans un épisode, c'est très très loin de me gêner, j'adore ça. Le fait que les candidats ne savent pas si en arrivant ça va être un conseil, si ça va être un mélange d'équipes, si ça va être un exil, c'est bien aussi. Par contre, le conseil surprise en lui-même, en effet, ça, c'est quelque chose qui favorise un peu trop le statu quo, c'est-à-dire qu'on va se tourner automatiquement vers le plan A qu'on avait en tête. Bon, après, on a bien vu que c'était pas si limpide que ça, vu qu'il y a 4 personnes qui ont reçu des votes. Mais disons que le fait d'avoir 4 personnes différentes qui ont reçu des votes, ça montre bien que le plan n'était pas aussi solide. Mais ça montre aussi que bah, le plan A risque toujours de se faire avoir. C'est pour ça que, bon, on a vu plus tard, on en reparlera, des critiques comme quoi, oui, mais Laure et Maxine, vous avez voté contre Magali. Oui, mais elles n'avaient pas le temps de stratégiser, donc faut pas trop leur en vouloir pour le premier conseil. Mais on en reparlera plus tard. Et voilà, je vois sur le chat que je vois du monde dire que c'est mieux d'avoir deux équipes au conseil avec une épreuve d'immunité individuelle, comme ça avait été le cas dans certaines saisons de Survivor. Et là, je ne suis pas forcément d'accord. C'est que je pense que le double conseil, même avec des épreuves d'immunité séparées, ça peut vraiment très bien marcher. Donc, et puis, en plus, il ne faut pas oublier que c'est la phase par tribu. On sait que les gens sont quand même un petit peu attachés à voir une équipe prendre le dessus. Alors que là, voir un éliminé dans chaque équipe de manière complètement automatique, je trouve que ça va un petit peu à revers des attentes que TF1 donne sur une phase par tribu. Alors moi, je ne serais pas du tout opposé à ce qu'on change les attentes. Mais voilà, c'est qu'il faut être conscient que Koh-Lanta, c'est une réalité autre que Survivor. Et dans cette réalité autre que Survivor, je pense que le fait de faire deux immunités séparées, bah mine de rien, ça colle beaucoup plus à la mythologie de Koh-Lanta, à ce que veut véhiculer Koh-Lanta avec sa phase par tribu. Donc je pense vraiment que l'altération de format qu'on a eu là, c'est très bien, même si j'aurais préféré un conseil le soir même qu'un conseil surprise, il faut vraiment être honnête, vu que de manière générale, je ne suis pas un grand fan des conseils surprises.
Lors de ce conseil, justement, alors c'est drôle parce qu'il y a eu certains votes qui étaient un petit peu dispatchés. On a vu Gabin voter Jonathan, on a vu Magali voter Frédéric, mais c'est Magali qui sort, et c'est Laure et Maxime qui votent Magali et qui pleurent vis-à-vis de ça. Donc les réseaux sociaux se sont déchaînés sur elle en disant que c'était des sorcières, que c'était des hypocrites et tout. Mais ça a un certain sens, surtout quand on voit l'interview de Laure, je crois, qui a été donnée à Télé Loisirs. C'est-à-dire que Laure et Maxine ont voulu la jouer groupe avant tout, et c'est-à-dire de dire aux mecs, venez, on vous fait confiance. Et ça va être le gros thème, je pense, de cet épisode, c'est-à-dire le sexisme dans l'équipe rouge et le sexisme en Koh-Lanta en général. C'est-à-dire que c'est pas forcément un sexisme frontal, c'est pas un candidat qui va dire clairement aux meufs, écoutez, vous servez à rien à part vous bronzer le cul sur la plage. Personne ne dit ça, et de toute manière, personne se hasarderait à faire ça. Mais
sur Twitter.
Voilà, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que Les femmes se sont mis direct en position d'infériorité en se disant on veut prouver aux mecs qu'on est avec eux, donc on va voter avec eux. Et les mecs, bah, du coup, on va le voir ensuite ici. Il y a Boubac sur le chat qui met un tweet d'Alexia Laroche-Joubert qui dit « Merci Damien Mercereau », donc le journaliste de Télé Magazine. En effet, toutes sont stratèges, les filles jouent et utilisent toutes les armes du jeu autorisées pour le faire. C'est une nouvelle génération d'aventurières en adéquation avec l'époque qui revendique la parité. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que c'est, je dirais que c'est quand même, c'est inconscient. C'est-à-dire que quand on arrive en Koh-Lanta, on voit là, Magali était la cinquième ou sixième femme à être éliminée consécutivement depuis le début de l'aventure. Et on voit bien que dans l'esprit des candidats, si on veut garder une équipe forte, entre guillemets, il faut éliminer des femmes. Vous, par rapport à tout ça, par rapport à l'élimination de Magali, par rapport à la mentalité de Laure et Maxime sur ce conseil, qu'est-ce que vous voudriez rajouter un petit peu là-dessus et sur, en général, parce que c'est un thème dont on parlera encore ensuite.
Alors, concernant tout ce qui s'est passé par rapport à ce conseil, donc j'ai déjà dit que pour Laure et Maxime, c'était vraiment... difficile de leur reprocher quoi que ce soit vu qu'elles n'ont pas eu le temps de préparer un plan B. Après, j'ai vu du monde réagir sur le chat. Je vois notamment quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas de sexisme dans l'équipe rouge parce que les alliances unisexes avaient partie du jeu. Et d'un certain point de vue, les alliances unisexes, en effet, ça fait partie du jeu. Je veux dire, parmi nous, quand on discute sur le chat d'ADF, on est très nombreux à vouloir des alliances féminines en règle générale vu qu'on voit qu'elles ont tendance un petit peu à se faire bouffer en début de jeu. Mais et donc voilà, on peut pas critiquer les garçons pour pouvoir faire des alliances unisexes aussi. Le problème, c'est que pendant longtemps, malheureusement, une alliance de garçons, on n'appelle pas ça une alliance de garçons, on appelle ça voter au mérite. C'est-à-dire que on a quand même l'impression que derrière ça, il y a un discours comme quoi les hommes ont plus leur place dans Koh-Lanta que les femmes. Alors voilà, faut relativiser un petit peu le problème du sexisme dans le programme. On est quand même sur 4 victoires féminines de suite. Mais disons que sur la phase de début de jeu, c'est quand même quelque chose qui est très marquant. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'ils étaient, après l'élimination de Magali, 5 hommes et 2 femmes, et ça leur est pas venu à l'esprit de se dire, comme il y a un tirage au sort qui est genré, d'ailleurs qui est genré dans Koh-Lanta et qu'on voit que dans d'autres jeux, dans d'autres variations étrangères, ça n'est pas genré, ça serait peut-être mieux d'éliminer le garçon le plus faible pour forcer l'autre équipe à avoir un tirage au sort sur les garçons et peut-être prendre le risque que eux, leur garçon le plus fort, sortent. Alors que si jamais on élimine une fille de plus, ça change plus grand-chose. Et ça, le problème, c'est que le fait que les candidats n'intègrent pas cette logique-là et se disent « Non, mais plus de mieux, ça sera toujours mieux. » Voilà, c'est là, par contre, il y a quand même une logique sexiste interne qui n'est pas à confondre avec le fait de jouer le gros sexiste. C'est-à-dire que je suis sûr et certain que sur les rouges, bon, c'est peut-être possible qu'il y en ait un ou deux qui soient machos dans le quotidien, on les connaît pas assez, mais je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ne pensaient absolument pas à mal. Et donc voilà, il faut absolument pas les vilipender, les garçons rouges là-dessus. C'est-à-dire que c'est des logiques qui sont intériorisées. Il y a aussi le fait que forcément, ils sont bien entendus entre eux et c'est pas toujours le cas dans Koh-Lanta, donc vraiment, tant mieux pour eux. Mais voilà, il faut vraiment pas les vilipender pour ça. C'est pas parce qu'il y a eu cette logique d'alliance de garçons que c'est forcément des gros machos qui font des réunions entre eux le soir pour décider « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour manquer de respect aux femmes aujourd'hui ?» D'ailleurs, on a même bien vu plus tard dans l'épisode avec l'interprétative un peu maladroite d'Hervé de se racheter. Mais voilà, c'est-à-dire que on n'est pas... voilà, il faut vraiment nuancer les choses. Et que là-dedans, il y a quand même quelque chose d'inconscient sur le début de jeu à vouloir éliminer des femmes partout, alors que même dans la liste de règles faite par la prod, c'est pas du tout encouragé. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que les autres intervenants pensent de ça.
Tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec toi, Gino. C'est vrai que je pense pas que les hommes soient consciemment machistes ou sexistes, à part Hervé. Mais voilà, il y a eu. Oui, c'était le petit scud, c'est gratos. Voilà. C'est pour moi, c'est cadeau, comme dirait Baba. Je fais des références. Il y a eu la justification un petit peu foireuse de Arnaud, où je pense pas qu'il soit sexiste, mais qui dit voilà, tant qu'il y aura des femmes, on les éliminera. Je pense qu'il parlait vraiment de sa stratégie parce que qu'il y a un noyau qui se soit formé par affinité entre 4 hommes, bon, c'est pas ce qui est le plus gênant. Après, on peut se mettre du côté des femmes, parce que bon, c'est vrai que si on parle sociétalement, la place de la femme, elle a souvent été un petit peu compliquée, ou elles ont toujours eu plus de difficultés, où elles ont dû plus se battre. Et il y a Solène qui, pendant le live de Koh-Lanta, qui avait dit que le sexisme présuppose une domination d'un genre sur l'autre. C'est difficile de considérer une alliance de femmes comme sexiste parce que les hommes se font rarement oppresser en tant que genre. Et elle a entièrement raison là-dessus. C'est pour ça qu'une alliance de femmes, on peut comprendre qu'il y en ait plus souvent et que ce soit pas du féminisme pur et dur, parce que faut qu'elles se battent un petit peu plus, et etc. pour exister. Donc voilà, c'est un sujet très sensible. Et comme l'a dit Gino, après une alliance, éliminer des hommes, ça veut dire que l'équipe d'en face, aux épreuves suivantes, devront tirer la boule noire. Donc ça veut dire que les forces en présence se rééquilibrent. Donc tu peux éliminer le plus fort, le présupposé plus fort homme de ta tribu, ça il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'en face, ils vont tirer au sort l'épisode d'après pour voir quel homme ne participera pas. Donc peut-être que l'homme en face ne participera pas à l'épreuve. Donc les forces se rééquilibrent. Donc là où aurait pu, on y reviendra peut-être plus tard, là où aurait pu réfléchir sur le long terme Maxine et Laure, c'est de garder Magali et Candice pour pouvoir éliminer un homme et ensuite retourner l'alliance, et comme ça on n'aurait pas parlé de sexisme ou de machisme dans le camp des Rouges. Mais voilà, je pense qu'il y a un inconscient machisme ou sexisme qui est là, qui guette un petit peu le camp des Rouges. Et bon, on verra par la suite si ça leur portera préjudice. On espère que oui.
Tout d'abord, j'aimerais parler un peu de Magali, qui, sa sortie, elle n'est pas du tout... on ne peut pas considérer la sortie de Magali comme sexiste, ni le vote de Laure et Maxine comme étant quelque chose d'un... Magali était en danger au premier conseil rouge. Au conseil de Candice, elle était le plan B, elle a reçu 4 votes. La sortie de Magali est logique dans statu quo et personne ne peut blâmer Laure et Maxine d'avoir voté une femme à ce moment-là. La chose qu'on peut reprocher à Laure et Maxine, c'est de ne pas avoir eu une vision de jeu qui va plus loin que le prochain conseil. Et là, pour le coup, elles se sont bien fait avoir par les hommes qui sont beaucoup plus proches entre eux, qui ont plus d'affinités. Et personnellement, je trouve, et il y a certains commentaires des hommes cet épisode qui m'ont mis très mal à l'aise, parce que oui, il y a une alliance d'hommes, mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut considérer Laure et Maxine comme des pions à sauter. On est dans un jeu et chaque personne a le droit de jouer et personne ne doit être sur un siège éjectable constamment, comme l'a été Magali précédemment. Et je sais plus ce que je disais au début.
Non, tu disais, en gros, oui. Tu avais parlé surtout de Magali, et puis du coup, c'est savoir, toi, est-ce que cette équipe rouge montre qu'il y a toujours un inconscient sexiste parmi les candidats de Koh-Lanta, qui fait que les femmes partent toujours, quand même, au début du jeu, toujours un petit peu de manière inférieure.
C'est une problématique qu'on a quasiment chaque saison, et dès que on est beaucoup plus surpris quand c'est un homme qui sort lors des 3 premiers conseils que lorsque c'est une femme. Et quand c'est un homme qui sort, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de faible ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui fait chier. Tandis que les femmes, c'est pas parce qu'elles font chier, c'est parce qu'elles sont faibles. C'est là la nuance. Je voulais aussi revenir un petit peu sur le tweet d'Alexa Laroche-Joubert qui parle de génération d'aventurières qui revendiquent avec raison la parité. Et là, c'est autre chose qui me dérange, mais dans l'autre sens. C'est la parité dans quel sens ? Est-ce qu'on va exiger maintenant que autant d'émulation hommes que de femmes jusqu'à constamment, avoir autant d'hommes que de femmes à la fin, c'est une autre problématique aussi, parce qu'on peut pas demander la parité dans un jeu. Là, c'est les affinités qui doivent toujours être en première ligne. Et
après, ce que je te dis, c'est que la question, c'est comment les affinités se font. C'est-à-dire pourquoi c'est si facile d'avoir une alliance masculine,
voilà.
Et pourquoi tout le monde dit une ambiance, enfin une alliance féminine. Pour toi, tout le monde dit que c'est que ça fait peur. Alors, en gros, c'est ce double standard là.
Parce que sur le camp et les épreuves, les gens se groupent par compétences slash affinités slash tout ce que vous voulez. Et on a toujours cette logique de les mêmes personnes vont chercher le bois, les mêmes personnes vont chercher l'eau, les mêmes personnes vont chercher machin. Et quand les groupes se forment en fonction des activités, c'est très souvent en fonction des genres aussi. Donc, est-ce que c'est là aussi qu'il faudrait travailler en tant que candidat, bon, je ne le suis pas encore, peut-être un jour, pour que les groupes soient mixtes aussi, afin d'éviter et de casser rapidement cette idée d'alliance genrée.
Mais d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que ça se retrouve aussi dans les communautés de fans de Koh-Lanta. Regardez ce podcast par exemple, on n'est que des hommes. On n'est que des hommes à parler. Et pour trouver une femme qui accepte de prendre la parole à ce sujet, c'est extrêmement compliqué parce que déjà il y en a peu. Que celle, parfois, il y en a qui ont demandé. Là, on a eu Claëla cette saison, on va en avoir d'autres aussi, mais c'est extrêmement compliqué de prendre la parole là-dessus. Et on voit, par exemple, avec la youtubeuse Félonie, qui est une des rares femmes qui s'exprime sur cette émission et qui se prend des vagues de harcèlement incroyables parce que c'est un milieu extrêmement masculin. Et même notre communauté, si on regarde, des femmes, il y en a quand même très, très peu et qui prennent la parole encore moins. Donc, je pense que c'est vraiment je pense que ce qui est véhiculé par l'émission, ça reste quand même des valeurs très masculines, enfin, de genrer comme étant masculine, on va dire. Ça reste quand même des valeurs qui sont, qui renvoient un imaginaire guerrier. Le terme héros est utilisé tout le temps. Il y a eu le combat, la revanche, le choc. C'est toujours une logique d'affrontement binaire et avec des héros. Et je pense aussi que je pense que Gino parlait de la mythologie de l'émission, la mythologie de Koh-Lanta. Et ben cette mythologie qui est vraiment basée sur un vocabulaire guerrier, je pense que ça fait aussi que des femmes, on va dire, vont peut-être moins se reconnaître là-dedans, qu'elles vont suivre ça, mais que pour l'instant, elles vont toujours être considérées un peu comme étant, des peut-être pas des sous-candidates, mais comme étant un petit peu inférieures et doivent en faire deux fois plus pour faire leurs preuves et pouvoir prouver qu'elles sont de grandes aventurières. Et tout ça, je pense que globalement, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur l'émission, puisque Koh-Lanta en tant que jeu, n'est pas sexiste, mais ce sont les gens, la société qui est sexiste, et comme ce sont des gens du quotidien, du coup, ils agissent de manière sexiste. Et c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question en regardant l'émission. Et c'est aussi une piste d'amélioration pour cette émission.
Et on le voit aussi sur la réaction des réseaux sociaux envers les stratèges. Je fais l'exception de Hamad et Régis qui avaient été harcelés sur les réseaux pendant les délais des héros parce que eux s'étaient attaqués au mythe Théoura et fallait pas, c'était interdit selon le grand public, ce qui est totalement idiot. Mais sinon, des Ravière, des Sandro, des Cédric ont été moins vilipendés, on va dire, sur les réseaux sociaux que une Clémentine, que une Maxine ou une Laure la semaine dernière. Donc, on voit quand même que, voilà, historiquement, si tu es une femme, tu n'as pas le droit d'être sportive, tu n'as pas le droit d'être bonne en survie, tu n'as pas le droit d'être stratège. C'est terrible c'est terrible de penser ça, quoi.
Et t'as pas... Non mais si t'es une femme et à l'inverse si t'es une femme, si tu n'es pas sportive, t'es pas forte en survie, etc., et que tu fais partie du FC Bronzette comme aime bien l'appeler Twitter, tu te fais aussi massacrer, comme quoi t'as pas ta place. Et c'est très difficile en tant que pour les femmes de trouver leur place dans ce genre d'émission.
Ouais, c'est voilà. Et pourtant, on regarde le palmarès de Koh-Lanta, je mets de côté les éditions All-Star, mais historiquement, il y a eu 21 saisons régulières, 22 saisons régulières, pardon, il y a eu 11 victoires féminines, 11 victoires masculines. Donc, voilà. Et puis moi, j'ai toujours préféré voir la résilience et la force de mental et de caractère des femmes que les gros muscles saillants des candidats qui gagnent toutes les épreuves ou quoi. Bah ouais, c'est bien, tu es fort sur les épreuves, tu peux participer aux Jeux Olympiques, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu apportes, quoi?
Et c'est aussi toute l'iconographie autour des anciens candidats qui indique ce qu'est, 80, enfin, ce qu'est les héros. Parce qu'on a vu sur l'île des héros, quand on avait les portraits avec Théoura et Claude, ce sont des héros parce qu'ils ont gagné beaucoup d'épreuves, etc. Et qu'on a à côté Sarah et... j'ai oublié son
Jessica.
Prénom. Jessica. Sarah qui est la première femme à avoir fait le feu et Jessica qui est la première femme à avoir pêché au harpon.
Avec friction, le feu.
Oui, voilà, exactement. Enfin, disons que c'est pas du tout la même image qu'on a. Quand t'es un homme, faut être un héros parce que faut avoir des compétences sportives très avancées. Quand t'es une femme, t'es une héroïne parce que tu t'es un peu bougé sur le camp. Et c'est encore deux poids deux mesures. Tu peux pas être sportive en tant que femme.
D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je veux aussi rebondir sur ce que nous disent nos amis spectateurs sur le chat et notamment Jus qui est intervenant ici et qu'on espère revoir très vite au micro.
Ah non, pas Jus.
On a parlé. Mais on a en effet sur le chat beaucoup parlé de Lola et puis Lola la saison dernière, en effet, c'est que c'est elle qui a remporté le plus d'épreuves dans la saison. C'est elle qui a eu peut-être le plus gros impact stratégique dans la saison. Mais à chaque fois qu'elle réussissait quelque chose, tout le monde passait son temps à essayer de le minimiser. C'est-à-dire que toutes ces épreuves où elle a gagné, tout le monde essayait de dire « oui, elle a eu de la chance, oui, mais c'est une épreuve pas assez physique, oui, mais avec un collier, c'est plus facile, comme si elle ne s'était pas bougé le cul pour l'avoir. »
Ouais, il y a toujours un « oui, mais ».
C'est ça, alors que...
On est tous d'accord
pour de l'autre dire côté, Lola tout Queen. Le monde...
Ah, on oui, est d'accord Lola pour Queen. Dire Lola Queen.
Alors que du même côté, Dorian, qui a l'air humainement très appréciable, qui avait beaucoup de soutien du public, bah mine de rien, oui, court vite, mais il n'a pas gagné d'épreuve individuelle, je suis désolé.
Mais on adore Dorian aussi, hein, je préfère le dire.
Bah, humainement, sur ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est l'air d'être quelqu'un de très sympathique.
Oui, c'est quelqu'un très sympathique.
Chez les Rouges, Laure et Maxine se sentent, elles, en position d'infériorité. Le départ et les mots de Magali ont eu l'effet d'un électrochoc pour Maxine et Laure.
Les filles, on m'a parlé un peu. Je voudrais juste que vous fassiez une promesse. Voilà, vous ne laissez personne vous faire douter de vous. Voilà, vous ne laissez jamais personne vous rabaisser.
En tout cas, les Rouges, vous n'êtes plus que 7. L'intégralité des garçons, 5 et 2 femmes.
Elles regrettent maintenant d'avoir voté contre elle et constate un peu tard qu'elles ne sont plus que 2 femmes.
Je suis inquiète pour moi, je suis inquiète pour Maxine, parce que si Maxine elle vient à partir, je vais être très très mal. Mon aventure sans elle serait très très dure. Donc voilà, l'étau se resserre et c'est vrai qu'on est un peu en panique.
Alors, question que je voulais vous poser sur Laure et Maxine, pourquoi il faut qu'elles soient vraiment au pied du mur pour se rendre compte qu'elles sont en mauvaise position dans l'équipe?
Je vais revenir à quelque chose qui est très cher à notamment à ADF et qui avait été mis en exergue par notre excellent Gino. Il y a 4S dans Koh-Lanta, on le dit souvent, et elles se sont focus sur Candice parce que son social à Candice était très compliqué. Donc pour la vie de camp, c'était très compliqué. Donc elles ont pensé groupe, mais du coup, elles n'ont pas pensé stratégie. Et c'est là où l'équilibre doit se faire, c'est que, ok, Candice, elle était, selon leur dire, invivable, etc. Mais pourquoi ne pas avoir ouvert la porte à sa tentative d'alliance, on va dire, et notamment en ciblant Frédéric? Pourquoi elles ne l'ont pas fait, sachant que ça aurait pu retourner la situation en leur faveur et se retrouver à une parité féminine? Et si on remonte même plus loin, il y a eu l'élimination de Marie, où Candice, Maxine, Laure auraient pu voter Frédéric, parce qu'à ce moment-là, il avait une voix contre lui et le faire sortir, et du coup, voilà, elles n'auraient jamais été dans cette position-là. Donc, je pense que ce qui leur a manqué, c'est de la vision à moyen et long terme de voir voilà, si on élimine cette personne, quelles conséquences ça aura. Et ne pas pouvoir lire plus loin que le conseil suivant, c'est un peu compliqué dans Koh-Lanta, je pense, et ça limite vraiment vos chances d'avancer.
Est-ce que tu penses que toi, justement, elles auraient dû peut-être, au lieu d'éliminer Candice en pensant groupe, peut-être voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire la garder en tant que fusible, entre guillemets, rameuter Gabin et Magali et tenter de renverser un petit peu l'ordre établi chez les Rouges en éliminant un des hommes?
Ah oui, très, très clairement. Très clairement, parce que du coup, ça s'était joué entre Candice et Magali. Oui, du coup, tu ralliais Magali. Ça faisait donc Candice, Maxine, Laure, Magali, plus Gabin, qui a l'air d'être plus proche de Maxine et de Laure. En faisant ça, tu retournais le jeu des Rouges et tu prenais une bonne position dans la tribu. Là, en ne réfléchissant pas, après, c'est vrai qu'il y a eu le conseil surprise, donc elles n'ont pas eu le temps de mettre en place quelque chose aussi, il faut l'avouer. Elles ont eu peur, parce qu'elles le disent aussi, elles ont eu peur que ça se joue entre Magali et Maxine et Laure. Donc du coup, elles ont voté Magali parce qu'elles étaient dans la balance, elles pensaient être dans la balance, donc elles ont maximisé leur chance. Mais c'est vrai qu'en ayant tenté ce coup avant, en ayant eu une lecture de jeu préventive, on va dire, elles auraient pu faire la bascule.
Bah, c'est sûr que maintenant, elles sont plus qu'en minorité parce que elles étaient plus qu'en minorité à 5 contre 2. La seule personne qui leur tendait la main, enfin avec qui elles avaient une affinité, c'est Gabin. Manque de peau, il est évacué médicalement et par chance, c'est Magali qui revient et pas quelqu'un d'autre. Après maintenant c'est elles sont en position de faiblesse, quelles sont les armes qu'elles ont à leur disposition pour inverser la tendance, elles le savent pas encore, mais la réunification sera peut-être ce moment là où les hommes rouges seront mis à mal pour avoir ouvertement mis de côté les femmes, et c'est quelque chose que j'attends avec impatience.
Alors, je vais pas mal rejoindre ce qui a déjà été dit, c'est que, oui, maintenant, on se rend compte que Maxine et Laure sont passées à côté du coche la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas assez parlé lors du podcast de la semaine dernière, vu que c'était vraiment une semaine qui était déjà très chargée. Mais c'est une remarque qui était beaucoup revenue sur le direct qu'on avait fait sur ADF pendant l'épisode. C'est que, en effet, il y avait un coup stratégique qui était à faire et qu'elles n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'elles ont préféré jouer uniquement avec l'émotion, donc le S du social. Et c'est vrai que c'est le S le plus important, mais elles ont un petit peu oublié les autres S. C'est-à-dire que pour le coup, ça les mettait dans une mauvaise position stratégique, vu que un, elles perdent une occasion d'éliminer quelqu'un qui aurait pu leur nuire plus fortement. Deux, même si jamais elles aiment pas Candice, ben le fait d'utiliser le collier pour éliminer quelqu'un qui peut les gêner par la suite, puis de livrer Candice en pâture la fois d'après, ben ça leur fait deux conseils de tranquillité. C'est quand même quelque chose d'énorme. Surtout que on a vu que là la réunification arrive assez vite cette semaine, et même si les candidats ne pouvait pas forcément le savoir, on a vu les dernières saisons que la réunification arrivait assez vite. Donc vraiment, deux conseils de tranquillité à ce moment-là, c'était quelque chose d'énorme, et elles sont un petit peu passées à côté. Bon, heureusement pour elles, le fait d'avoir gagné l'immunité là, enfin, et du retour de Magali, dont on parlera forcément plus tard, ça leur a un peu sauvé le derrière, mais elles ont vraiment fait un mauvais coup la semaine dernière. Mais disons qu'elles ont fait un mauvais coup, pas pour les raisons dont les réseaux sociaux parlent, c'est-à-dire que oui, Laure a été trop dure dans ses propos, mais en soi, le coup tactiquement est bien, mais stratégiquement n'est pas bien. C'est-à-dire, tactiquement, oui, c'était si jamais tu veux éliminer Candice, c'était quelque chose de parfait, mais stratégiquement, bah, c'est quoi l'intérêt d'éliminer Candice? Donc là, je pense qu'elles se sont un petit peu sauvées par les circonstances de l'aventure. Mais voilà, c'est des erreurs à ne absolument pas reproduire en la matière.
Et c'est toute la différence qu'il y a avec le coup dont on reviendra plus tard, le coup qu'a fait Shanice, où la position n'est pas du tout la même. Mais j'ai pas envie de griller les étapes.
Et les filles ce matin ont pris un gros coup au moral parce qu'elles ont tout fait pour être rattachées au gars et là elles se voient lâcher petit à petit. Pour moi, il n'y a pas côté fille, côté garçon, on est vraiment une équipe, on est tous ensemble, on s'en fout du sexe et tu peux être une fille ou un mec, on est tous pareils, on a toutes nos chances.
Gabin, qu'on n'avait quasiment pas entendu et donc on disait justement qu'on ne comprenait pas trop. Bon, on sait qu'il a eu un souci au genou et que du coup il s'est fait évacuer médicalement ensuite. Mais c'est dommage parce que là, rien que pour ce qu'on fait, il était quand même intéressant parce que. Voilà, il voulait pas forcément suivre l'alliance masculine des rouges et qu'il était prêt à retourner le jeu en faveur des femmes. Donc c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu et c'est possible aussi que son montage très discret ait été fait justement pour pas qu'on le regrette trop à cause de son évacuation médicale. Est-ce que voilà vous Gabin au final vu qu'il est sorti, quelle est votre pensée par rapport à lui maintenant? Qu'est-ce que vous retiendrez de lui?
Bah pour Gabin, disons que la chose que je retiens, c'est en effet que le montage n'a pas été flatteur pour lui. Après, comme tu le dis très bien, c'est que c'est comme j'ai un petit peu découvert l'étude du montage par Survivor et pas par Koh-Lanta, c'est que dans Survivor, en règle générale, on donne un montage assez discret aux gens qui vont se blesser, soit qui vont être victimes d'une altération de jeu qui est un peu limite. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un se fait sortir par un collier. En règle générale, on essaye de le rendre plus discret dans son rôle qu'il ne l'a été vraiment. Et de même, quand il y a un mélange d'équipes, si jamais il y a quelqu'un dont on a l'impression qu'il a uniquement été arnaqué par le mélange de tribus, on le rend un petit peu discret pour ne pas que les gens regrettent trop qu'ils soient victimes de ces altérations-là, pour pas que les fesses de la prod chauffent trop, quoi. Mais voilà, donc je pense que pour Gabin, on retrouve cette logique-là, c'est-à-dire que si jamais on nous avait fait un début de saison en montrant du Gabin, le moment où il sort, ça aurait vraiment été une énorme déception et ça aurait pas donné une narration satisfaisante. Donc là-dessus, voilà, c'est un procédé qu'on peut regretter par rapport à Gabin en lui-même, mais là-dessus, c'est un procédé sur lequel voilà, il y a des tas de fois où je critique les logiques de montage de la production parce que voilà, c'est des logiques qui ne rendent pas bien compte du jeu. Là, honnêtement, ce procédé-là, narratif-là, on est vraiment obligé de l'avoir pour avoir une saison satisfaisante. Donc là-dessus, ça ne me gêne pas, mais voilà, il faut vraiment en parler. Après, voilà, Gabin en lui-même, c'est vrai que maintenant qu'on se rend compte qu'il a un petit peu plus de subtilité que les quatre autres garçons en étant prêt à retourner le jeu, en étant quand même beaucoup plus proche de Maxine et de Laure que ne sont les autres. C'est vrai que maintenant, on regrette un petit peu que la semaine dernière, on se soit dit, il court vite, il fait rien d'autre, quoi. Mais, mine de rien, oui. Quand on voit ce gamin-là, oui, forcément qu'on regrette de ne pas l'avoir vu un petit peu plus et que, peut-être que sur une saison, on fait revenir d'anciens candidats. Si jamais on se décide de faire une saison où, à l'image d'une saison de Survivor, justement, on avait fait revenir trois candidats qui avaient été fauchés dans leur élan par une blessure, là, mine de rien, si jamais on fait une saison où il y a ce thème-là de quelques candidats qui reviennent après avoir été blessés, forcément, Gabin serait très tentant avec cet épisode-là. Et voilà, c'est que maintenant, mine de rien, voilà, Gabin, il a eu un style de jeu qui a été différent de celui des hommes rouges, qui a l'air plus malin, qui a l'air plus nuancé, et disons que, mine de rien, c'est quelque chose d'assez plaisant chez lui, et malheureusement, tout ce qu'on va retenir, c'est qu'il a fait une prestation très forte sur une épreuve, et c'est un petit peu dommage pour lui.
Est-ce que tu vas bien, Gino? Parce que ça fait 2 semaines de suite que tu viens dans le podcast, 2 semaines de suite que tu loues le montage et la production. Je ne te reconnais plus.
Oui, c'est vrai que c'est vrai que s'il y a des gens qui nous rejoignent cette saison pour écouter ADF, c'est que sur les 2 saisons précédentes, je passais mon temps à me plaindre du montage et de la production.
Tu as candidaté au prochain et puis tu mets toutes les chances de ton côté. Non, mais alors, et je reviens aussi sur une saison spéciale sur ceux qui ont été évacués médicalement. On a eu Sarah quand même, qui est revenue. Alors qu'à chaque fois, elle quittait le jeu en évacuation médicale. Bref, c'est pas un exemple.
Elle a un abonnement,
ouais. Non, pour en revenir à Gabin, après, le souci, c'est que je pense qu'il était vraiment accès pro-mérite. Parce qu'à chaque fois, ses justifications de vote, c'était « je vote pour toi parce que tu as été le moins bon à la dernière épreuve ». Il l'a fait pour Candice, il l'a fait pour Jonathan, parce qu'il a voté Jonathan au conseil surprise. Pour Marie, je ne sais plus s'il l'avait fait, mais ce ne serait pas étonnant non plus. Donc voilà, lui, en fait, il faudrait l'inviter dans une saison où il n'y a que des éliminations, que des épreuves éliminatoires. Et c'est là, par contre, où il a eu raison, c'est que bah, les plus faibles, ce n'est pas forcément les femmes. Ça peut être tout le monde. Donc, dans cette dimension-là, il n'était pas inintéressant. Mais après, voilà, il était beaucoup trop pro-mérite, je pense, pour pouvoir espérer quelque chose dans ce Koh-Lanta, malheureusement. Après, ça n'empêche pas que je pense qu'il a, ça reste un garçon tout à fait charmant et tout à fait sympathique. Je ne remets en cause aucunement cette facette de sa personnalité.
Après, je voudrais faire un petit... avant que Koh-Lanta intervienne, j'aimerais faire un petit contrepoint à ce que tu dis, SLZ. C'est que...
Tu peux m'appeler Arnaud.
Ouais, Arnaud, je sais pas comment on doit t'appeler sur le podcast, en fait.
Appelle-moi Dieu, tout simplement.
Mais D'accord. Donc, la divinité de Nevers. Donc voilà, pour en revenir à ce qui s'est passé avec Gabin, le petit contrepoint que je voudrais faire, c'est que souvent ce qui m'agace le plus avec les candidats qui parlent sans arrêt de mérite, c'est que, enfin, de mérite au sens où on se doute bien qu'on parle de mérite sportif, pas de mérite dans d'autres domaines, mais disons que quand on parle de mérite sportif, ce qui m'agace avec beaucoup de candidats qui parlent de mérite sportif, c'est qu'ils sont hypocrites dans leur vision du mérite. C'est-à-dire, bah, justement, là on a vu... avec les garçons rouges, même si bon, le mot mérite n'a pas été trop prononcé, que le mérite pour eux, c'est d'éliminer les femmes, c'est pas d'éliminer les plus faibles. Que pour d'autres, le mérite, oui, ça s'applique tant que c'est quelqu'un de son alliance. Vu qu'une fois que c'est quelqu'un de l'alliance adverse, on s'en fout de virer quelqu'un qui est méritant. Oui. Alors ça, que là, Gabin, il est sincère dans son approche pro-sportive. Et disons que bah, c'est un critère de vote comme un autre. Après, je suis d'accord que après la réunification, c'est un critère qui est complètement idiot. Mais avant la réunification, je pense que c'est un critère qui est beaucoup plus intelligent qu'on le croit.
Ben, moi, ce que je vais retenir de Gabin, c'est que je l'ai jugé très rapidement au début avec son portrait où il court avec des pneus dans le dos. Je me suis dit, bordel, c'est quoi cet énergumène encore ? Finalement, son absence, je l'ai trouvé très appréciable parce que... Il avait l'air vide de base, à part le côté sportif, et je voulais voir des choses beaucoup plus intéressantes que lui. Je suis content qu'il lui ait un petit confesse, entre guillemets, de défense de Laure et Maxine. Parce que ça, du coup, ça a rendu le personnage un peu appréciable à mes yeux. Mais je pense pas que ce soit une grande perte pour l'émission générale. Et je pense que la page Gabin... On l'aura oublié dans deux mois, on ne saura même plus qui c'est. Donc, au revoir Gabin.
On l'a déjà oublié.
Se rendre compte qu'elles sont en minorité. Pourquoi ? Parce que Jonathan leur dit texto en face d'elles que leur but, c'est d'arriver avec le plus d'hommes possible à la réunification. Ce qui est très intelligent, on va dire.
Et, ouais, et ça, ce qui est tellement Jonathan.
Oui, voilà. Et ça me fait penser à quelqu'un qui s'appelle Napili Caillot sur Twitter, qui est une coach en stratégie pour personnes racisées. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant à suivre ce qui est dit, parce que du coup, en plus, ça, il y a un côté stratégie, mais vraiment dans la vie réelle. Et ce qu'elle disait, c'est que le propre du dominant, c'est de faire toujours des erreurs parce qu'il se croit beaucoup trop confortable. Et ça, pour moi, Jonathan, ça fait partie vraiment de ça. C'est-à-dire que le mec, il l'a dit tout à fait naturellement en face d'une femme, et il voit absolument pas le souci stratégiquement, alors que c'est idiot, tu dis pas ça. Il aurait mieux fallu faire croire aux femmes, justement, dans cette optique là qu'elles faisaient partie intégrante de votre alliance. Mais alors Hervé, surtout vu ses stories Instagram où il fait des blagues nulles, où il dit clairement qu'il aurait... c'est censé être de l'humour. Hein. Enfin, je vois pas où est la vanne, mais bon. Où il dit qu'en gros, il aurait aimé mettre un pain à Candice et qu'il aurait aimé draguer Marie, qui a peut-être 20 ans moins que lui. C'est, voilà, enfin, dites-moi où c'est drôle.
Bah, c'est de l'humour de boomer, on peut pas comprendre.
Non, mais...
Voilà. Et bien, vraiment, c'est que Hervé est peut-être, je dirais, le plus antipathique, vraiment, de... de cet hors-jeu et d'enjeu de cette équipe rouge, je dirais, parce que il y a ce côté un peu mielleux, un peu fourbe comme ça, c'est qu'on, qu'on perçoit à l'écran donc juste le candidat, et en dehors, on va dire, ses créations qui sont d'un goût assez douteux, on va dire. Donc voilà, on va dire, c'est clairement pas notre préféré. Enfin, vous, quel est votre, votre sentiment là-dessus? Je crois qu'on a à peu près le même.
Bah là, c'est dommage que tu aies coupé le passage où on a eu Freeze la semaine dernière qui s'en est pris à Hervé pendant 3 minutes. De... Parce qu'on a, on a coupé ce passage-là au montage, mais Freeze s'en est pris à Hervé pendant 3 minutes de suite. Disons que je pense Damien l'a coupé parce qu'il avait peur que ça passe un peu
bah ouais,
la
mais là...
Mais c'était, c'était assez brutal. Hein.
Non, non, mais voilà. Mais dans l'extrait, il y a aussi Jonathan, et on l'a dit. Jonathan qui dit « Je trouve que c'est un avantage d'arriver à la réunification qu'avec des hommes. » Et en quoi c'est un avantage d'être qu'avec des hommes à la réunification?
Bah, pour lui, c'est un avantage, parce qu'il est camouflé par les autres hommes. Pour les femmes, pas du tout.
Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux, sachant que l'épreuve... Enfin, c'est individuel, quoi. Donc, moi, au contraire, je sais pas, je mets toutes les chances de mon côté. Si je suppose... Alors, c'est vraiment de la fiction. Si je suppose... En tant qu'homme, être supérieur à la femme, ce qui n'est totalement pas mon cas, hein, je me ferai laver par toutes les femmes du cast de cette année, hein, je vous l'avoue. si je suppose être plus fort que les femmes, bah, je garde les femmes avec moi. Comme ça, je fais un marathon d'immunité où je remporte toutes les immunités, et puis voilà. Ce qui n'arrivera jamais, hein, évidemment. Et voilà, enfin, j'ai pas compris sa logique à Jonathan aussi. Je pense qu'il est pas aussi futé, il est aussi futé que Hervé pour le coup. Et voilà, c'est pareil, je vais pas en dire plus.
Le pire, c'est que même si tu veux que ton équipe fasse un marathon d'immunité, bon, ce qui me semble un peu con vu que de toute façon c'est une phase individuelle, c'est que même si tu veux que ton équipe fasse un marathon d'immunité, après la réunification, il y aura toujours deux ou trois épreuves qui favoriseront les femmes, donc c'est bien d'en avoir justement.
Oui, c'est.
Mais après, voilà, pour revenir au truc qui me gêne le plus, c'est même pas ça, c'est le fait que non, là aussi, on peut parler d'un double standard. C'est que la semaine dernière, tout le monde s'est acharné sur Candice parce qu'il faut surtout pas parler de son collier, alors qu'on en a parlé, c'est beaucoup plus discutable que ça. Par contre, là, je vais pas dire qu'il y a eu un grand silence, il y a quand même quelques personnes qui l'ont noté. Et voilà, je veux notamment saluer Hikaru qui est un fidèle du chat et qui l'a bien souligné, c'est que parler de sa stratégie devant tout le monde, c'est déjà con, mais devant l'équipe adverse en plus, franchement, il y a des fils qui se touchent quoi, à ce niveau-là.
Non, mais ça, mais on a souvent souligné que les jaunes, c'était que des numéros 10 dans la team. Et les jaunes, en fait, ne réfléchissent pas sur le camp ou sur les épreuves ou quoi, et encore qu'ils ont remporté pas mal d'épreuves, mais autant les rouges, ils sont antipathiques. Les hommes rouges, hein, c'est de l'antipathie, quoi. Et j'ai même vu des réactions à propos d'Arnaud qui, parce qu'il pêchait des crabes et qui ressemblait à Obélix, qui était vraiment apprécié. Même lui, parce qu'à un moment, il justifie, je ne l'ai pas mis dans l'audio, mais il justifie, voilà, tant qu'il y aura des femmes, on les éliminera. Je pense que c'est plus maladroit qu'autre chose. Même lui, voilà, sa cote commence un petit peu à baisser et que, bah, ouais. Il n'est pas aussi blanc que les autres hommes de la tribu.
Bah après, c'est pas le sujet, mais quand tu dis antipathie des hommes rouges, il n'y a pas que les hommes. Je veux dire, même si on l'a, nous, en tant que communauté ADEF, on l'a un peu prise en pitié par rapport à ce qui lui est arrivé au niveau des réseaux sociaux et aussi au niveau stratégique, Laure a quand même été très très dur vis-à-vis de Candice. Honnêtement, la seule personne que je trouve pas antipathique chez les rouges, c'est Maxine.
Maxi ?
Et c'est quand même pas beaucoup, quoi. Enfin, maintenant, et Magali, maintenant qu'elle est revenue.
Magali,
après, c'est vrai qu'on la voit quand même tellement peu qu'on a du mal à la trouver antipathique. Donc,
j'ai du mal à cacher à quel point je n'aime pas cette équipe rouge, vu que tous mes favoris sont chez les jaunes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de. Je commence à apprécier de plus en plus Laure et Maxine parce qu'elles sont dans une position assez compliquée. Mais je suis pas d'accord quand vous dites que Hervé, c'est peut-être le pire de l'équipe en tant que tel. Parce que je trouve que Hervé, en personnage, il a quand même un côté un peu beauf qu'on aime bien sur ADF. Pour moi, la personne la pire de l'équipe en termes le personnage, c'est Jonathan, parce que il est vide, et à chaque fois qu'il fait une réflexion, c'est oh là là, gagner c'est bien, à perdre c'est nul. Et il affiche sa stratégie comme quoi il veut garder les hommes. Ben, pour moi, Jonathan est un horrible personnage, et enfin, télévisuel, je parle humainement, peut-être que c'est pas ça, mais pour moi, c'est la personne avec qui j'ai le plus de mal à accrocher, en tout cas. Hervé, il a encore un côté un peu beauf qui peut excuser avec de gros guillemets, et j'appuie ces guillemets très fortement, j'en mets 37 s'il le faut. Oui, Hervé a ce côté un peu beauf qui fait que on peut dire que ça passe.
Ouais, n'arrondis pas les angles, hein, je pense que c'est cramé pour qu'on ait des candidats de cette saison dans les futurs podcasts.
On aura un peu de rouge, déjà, je pense.
Non, alors, si on peut avoir Laetitia, moi je suis en joie.
Et du coup, bah là on va passer, parce qu'on a énormément parlé des rouges, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va parler des jaunes, puisqu'il y a eu aussi une séquence avant l'immunité des jaunes, où on voit que Aurélien prend énormément de choses un peu à cœur et qui s'occupe de beaucoup de choses, et que son attitude commence à agacer beaucoup de gens.
Le premier levé chez les jaunes, comme toujours, c'est Aurélien. L'hyperactif normand ne peut rester couché.
Ce matin, on se rend compte que beaucoup avaient besoin ou envie de dormir un peu plus longtemps. Grosso modo, ce matin, si j'étais pas allé chercher des crabes, on mangeait pas.
Je vais pas aller laisser les filles aller pêcher.
On vous le laisse, là.
Allez-y. Je suis le plus fort. Donc c'est moi, en tout cas, qui ramène le plus de poissons. J'en suis déjà à une dizaine de poissons, à moi tout seul. Donc laissez-moi faire. On n'est pas en colonie de vacances, quoi. Faut survivre. Donc si je veux manger, il faut que je pêche ou il faut que je chasse.
Aurélien est très gentil. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il laisse personne toucher au harpon. Parce que pour lui, il n'y a que lui qui peut ramener les poissons. Il nous fait passer un petit peu des fois pour des aérés, des teubés, des personnes bêtes, moins intelligentes que lui. Il aime bien se mettre en avant. On a l'impression que sans lui, on peut pas. On n'est rien. Donc à un moment ou à un autre, on va lui prouver que sans lui, on est quelque chose.
Aurélien, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Je peux vous assurer que là, vous allez vous en rendre compte plus tard, mais je pense que vous avez fait une belle erreur.
Donc Aurélien, donc éliminé à la fin de l'épisode, mais ça on y reviendra, parce que là, on va plutôt se focaliser sur son attitude, c'est-à-dire son arc narratif. Au départ, c'était vraiment la personne qui chapeautait tout le monde un peu chez les jaunes. Quand il a été évacué, en gros, on a l'impression qu'ils étaient tout perdus. Mais là, il commence un petit peu à vouloir s'accaparer, je veux dire, le harpon, peut-être par efficacité, parce qu'il estime que les autres ne feraient pas aussi bien que lui. Il a un côté très dirigiste, très marqué sur l'efficacité, et ça commence à agacer pas mal de gens. Alors, je vais vous demander donc à tous, je vais commencer par Koala, qu'on entend peut-être moins. Toi, Aurélien, justement, ce personnage, cet arc narratif, qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est ton sentiment vis-à-vis de lui?
Au début, c'était quelqu'un de très appréciable, parce que c'est un petit peu le narrateur de la tribu, c'était la seule personne qui était mise en avant. Et du coup, on comprenait son point de vue quand on voyait les erreurs du reste de son équipe. Plus on avançait et plus on découvrait le reste de l'équipe, leurs points forts, leurs faiblesses en épreuve ou sur le camp, plus il était détestable parce que, en fait, on se rendait compte que sa vision des choses n'était pas forcément la réalité. Il avait cette position de chef avec Laetitia, qu'il a très bien su gérer au début, mais plus le temps passait, on sait très bien que la position de chef, plus le temps passe, lui est difficile à garder. Et c'est un peu... il avait une épée de Damoclès sur la tête. Elle est tombée vendredi soir.
Aurélien, moi, je l'appréciais beaucoup. J'adorais ses confesses parce que, voilà, avoir un candidat comme ça qui trash un petit peu ses coéquipiers en confessionnal, ça me rappelle un petit peu Marc dans l'esprit. Et il lui a clairement manqué du tact et du social. Et c'est Cédric qui le disait, je crois, sur Twitter, Cédric de Koh-Lanta Joueur, donc qui a fait son Koh-Lanta avec Marc, où lui, Cédric, avait le rôle de catalyseur de Marc. C'est-à-dire que Marc, quand il commençait à s'emporter, Cédric était là pour l'apaiser. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué à Aurélien, quelqu'un qui puisse le dire, redescends en pression, parce que là, tu te mets clairement en danger par rapport à la tribu, et il peut t'arriver une bricole au prochain conseil. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est dommage, parce que honnêtement, c'est un candidat que j'aurais voulu aller voir plus loin, parce que je pense qu'il était très complet, mais voilà, qui est un petit peu déçu par rapport à ce manque de social sur le dernier épisode, surtout quand on sait que bah, c'est un fan de Survivor, donc c'est pas un néophyte. C'est pas un Sam qui a 20 piges, qui est fan de Théoura et de Claude et qui voulait et qui ne jurait que par Théoura ou Claude et qui vivait que pour lui. Aurélien, je pense qu'il était beaucoup plus fin que ça et qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu faire un massacre sur cette saison s'il avait travaillé un petit peu son social.
Alors, pour revenir sur Aurélien, d'abord j'aimerais, et là oui, je sais que je vais encore ressortir la cireuse, mais... mais là pour le coup sur cet épisode justement pour reprendre l'arc d'Aurélien qui avait été commencé sur l'épisode précédent, enfin bon, qui était plus ancien pour voir sa monte, son ascension, mais la chute date de l'épisode précédent. Et d'ailleurs petit salut à notre ami Jade qui a bien remarqué une chose, c'est que de nos jours le fait d'être bon en survie ne suffit plus vu que beaucoup plus de candidats ont oui. des capacités oui. dedans.
Ben, c'est compliqué d'être juste bon.
Et là, pour revenir par contre sur l'arc narratif, ce que je voulais souligner en premier lieu, c'était que ils ont très bien géré cet arc narratif-là, vu qu'ils ont bien montré pourquoi Aurélien était devenu aussi peu apprécié de la tribu. Et je trouve que ça a bien marché pour une chose, c'est que quand j'ai été un petit peu traîné sur Twitter après le show, parce que bon, enfin après l'émission, je devrais dire, parce que bon, je suis quand même un petit peu masochiste. Quand j'ai vu les réactions vis-à-vis de Shanice, elles étaient quand même beaucoup moins féroces que les réactions vis-à-vis de Laure et Maxine la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai vu quand même une bonne partie de gens trouver que Shanice, mine de rien, elle avait très bien joué, elle avait joué en patronne, et que là, pour le coup, ça montre bien que la production a très bien expliqué pourquoi Aurélien a chuté et qu'ils ont rendu ça satisfaisant pour une partie du public. Bon, pas pour ceux qui sont focalisés « Non, mais c'est lui qui a ramené le panier de crabe, il doit survivre jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du jeu. »
Mais il a coupé 3 hectares de forêt, laissez-le tranquille.
Mais voilà, pour revenir sur ça, ça prouve que l'arc narratif a été très bien géré. C'est-à-dire, si jamais tu rends ça accessible au public de Koh-Lanta, c'est que ça a bien marché. D'ailleurs, ils sont tout à fait capables, quand ils le veulent, de faire des bons arcs narratifs pour des candidats, pour rendre désagréables des candidats qui auraient été jugés méritants d'autres saisons. Je pense notamment à Maxime de la Guerre des Chefs. Dans n'importe quelle autre saison, il était idolâtré. Là, ils ont fait un arc narratif de manière à ce qu'on le plaigne pas trop et à ce qu'au contraire, on prenne plutôt Cyril et Maud en sympathie. Et disons que c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, contrairement aux deux dernières saisons où je trouve que la prod a été un petit peu feignante en jouant à fond sur l'image de l'homme fort qui fait plaisir à tout le monde, là ils ont pris un peu plus de risques avec cet arc narratif là et c'est à saluer. T'avais quelque chose à dire, Arnaud, j'ai l'impression.
Non, oui, je disais juste que par rapport aux compétences de survie, à un moment, je ne l'ai pas mis dans l'extrait parce qu'il y avait tellement de choses à dire et à mettre en extrait audio, sur Aurélien que je pense que ça aurait pris 3/4 du podcast. À un moment, il y a Mathieu qui dit, voilà, Aurélien, il pêche des poissons, il ramasse des crabes, et non pas des crables, mais nous aussi, on peut le faire, on n'a pas besoin d'Aurélien, mais il est tout le temps là à faire son professeur. Et voilà, c'est un peu ce côté-là qu'il a un petit peu perdu.
Et oui, totalement, c'est le côté prendre le pouvoir sur la tribu. On l'a dit la semaine dernière, c'est vraiment, vraiment, vraiment casse-gueule.
Et d'ailleurs, il a dit en interview, Aurélien, donc dans ses interviews de sortie, il dit clairement qu'en fait, sa position de leader, il s'est... senti forcé de la prendre parce que en gros tout le reste ne savait pas trop quoi faire. Et j'en voyais qui disait sur Discord ADF que Aurélien était plus la marionnette, on va dire, de Shanice, Myriam et Vincent et tout, plutôt que l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le groupe de 5, en gros, savait à peu près que, enfin, tant qu'il leur était utile, il n'y avait pas de souci. Et dès qu'ils ont pu l'éliminer, justement, bah ils l'ont fait parce qu'au final, on va dire, Aurélien était beaucoup plus dépendant, on va dire, des gens en dessous de lui que l'inverse, quoi.
Et il n'avait pas qu'une omniprésence en survie, mais aussi stratégique. En tant que chef de tribu, il avait dicté un petit peu les votes. Et on l'a bien vu lors du dernier conseil jaune où Laetitia, qui était en danger, il a réussi à la sauver avec d'autres personnes afin de la garder comme étant comme un vote supplémentaire. Et finalement, et ce conseiller-ci, il était parti pour sortir plusieurs... Il avait sorti plusieurs noms, il proposait au genre des choses, il avait proposé Lucie, il avait proposé Vincent. Enfin, il a vraiment une omniprésence aussi stratégique qui fait qu'il était trop présent sur tout un tas d'aspects, et à un moment donné, c'était évident que ça allait péter pour lui.
Je pense qu'il a voulu trop contrôler, et à vouloir trop contrôler, justement, il a perdu le contrôle. C'est philosophique.
C'est profond.
Ah ouais, là, je dis ça en pensant à Francis Lalanne.
Par contre, je vois, en traînant un petit peu sur le chat, j'ai vu des gens parler un petit peu d'un parallèle à faire avec ce qui avait été appelé par les twittos pendant la saison de L'Île des Héros, ce qui avait été appelé le FC Bronzette, c'est-à-dire un petit peu une alliance des...
pas méritant.
Comment dire, une alliance des gens qui ne mettent pas la survie au premier plan. C'est-à-dire, certains diraient une conjuration des médiocres, mais c'est pas quelque chose que je dirais à titre personnel.
Ah ouais, c'est ça, mais qui pèse. Ah, putain. J'ai envie de vomir.
Mais après, voilà, pour revenir au cas d'Aurélien. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question pour Aurélien, même si je trouve que le terme FC Bronzette est extrêmement méprisant et qu'on ne voit pas les contributions des autres à la survie, parce que l'arc narratif faisait que c'était beaucoup plus important de parler de celle d'Aurélien et que, mine de rien, on peut tout à fait contribuer à la survie sans se lever à 4 heures du matin tous les jours. Ce que je veux dire, il y a des tas de camps où ils ont réussi à se débrouiller en faisant un peu moins. C'est-à-dire, c'est aussi une partie de la capacité de gérer la survie, de savoir économiser ses forces avant les épreuves, savoir économiser ses forces dans la survie en elle-même, parce que les efforts que fait Aurélien, bah, mine de rien, ça lui coûte des calories. Donc, il faut gérer ces choses-là et que, mine de rien, le fait de déployer toute son énergie sur le camp, c'est pas toujours la meilleure chose, même si, bon, on va pas lui reprocher ça trop virulemment. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être dirigiste, c'est pas d'être orienté survie. Mais après, disons que c'est intéressant dans le sens où peut-être que le fait que son côté très axé sur la survie et sur l'effort à tout prix, ça a peut-être un petit peu divisé l'équipe. Et que donc du coup, en effet, peut-être qu'il y a une alliance qui s'est constituée autour de ça. Et donc que d'un certain point de vue, oui, ça ressemble un petit peu au FC Bronzette qui a été dénoncé, dont je me désolidarise pardon, totalement du terme. Il y a peut-être une conjuration contre lui, et puis que, bah, mine de rien, si jamais ces candidats sont un petit peu méta, ils se disent la réunification approche, peut-être qu'il n'y a plus trop besoin du moralisateur. Mais bon, ça, je pense qu'on y reviendra.
Alors, du coup, on passe tout de suite à l'épreuve d'immunité, puisqu'on a beaucoup parlé. L'épreuve d'immunité, c'était l'épreuve du cochon pendu, mais sur des cordes, cette fois-ci, non pas sur des poutres solides. Et c'est-à-dire que c'était la même corde pour tout le monde. Donc, dès que quelqu'un tombait, la corde se tendait et il fallait garder son équilibre. Et en fait, au final, sont les rouges qui l'ont remporté cette épreuve. Alors, pareil, un avis sur cette épreuve ? Est-ce qu'elle vous a plu ?
Bah, cette épreuve-là, c'est une des rares épreuves de patience que j'apprécie parce que c'est une épreuve en équipe et que quand quelqu'un tombe, c'est beaucoup plus dur pour les autres. Mais vraiment, je pense que je suis une des rares personnes à l'aimer pour ça parce que c'est une épreuve de patience, c'est long, c'est très télégénique. Mais on regarde de la télé, mais on regarde du vide au final. On attend juste que les gens tombent et que ça fasse des jolis poufs dans l'eau, quoi. Donc, oui, c'est une épreuve qui est compliquée. Après, c'est une épreuve qui ne se gagne pas seule parce que dès que tu es tout seul, bah, en fait, tu as perdu parce que ta corde, elle est trop lâche ou tu es trop près de l'eau. Donc, j'aime bien cette épreuve. Après, pas tout le temps non plus, quoi.
Je ne le cache pas, beaucoup plus réservé sur cette épreuve. Bon, parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment dans l'épisode où je critique la prod, sinon ça serait pas drôle.
Ah, voilà, on retrouve notre Gino. Ah bah oui, rétro satanas.
Je suis beaucoup plus réservé sur cette épreuve. Bah déjà, parce que c'est à la fois une épreuve individuelle et collective. Et disons que bah, le problème, c'est que on avait parlé la semaine dernière du fait qu'à chaque épreuve, on essaye de se trouver un héros. Là, même si, oui, fondamentalement, l'épreuve est collective, vu que tu peux plus tenir tout seul à la fin, bah, t'as quand même cette dimension d'épreuve collective individuelle, c'est-à-dire t'as quand même l'impression qu'on essaye de désigner l'employé du jour. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne souvent sur les épreuves par équipe de cette saison, et que techniquement, le cochon pendu en soi, c'est pas une épreuve qui me dérange, vu que c'est bien qu'on ait des épreuves d'endurance dans Koh-Lanta, je vais pas dire le contraire, mais la variation où ils font lâcher une main, en plus le faire après 20 minutes. Alors oui, j'imagine que c'est parce que les conditions météo s'aggravant, c'était peut-être plus pratique pour la production, mais quand même, je trouve que c'est quand même un gâchis d'une épreuve d'endurance de ne pas en faire vraiment une épreuve d'endurance. C'est-à-dire, en durcissant les conditions à chaque fois, c'est plus vraiment une épreuve d'endurance. C'est vraiment... je veux dire, c'est plus vraiment une épreuve d'endurance dans le sens où c'est plus le mental qui prend le dessus, c'est le physique. Et là, ça commence à me déranger un petit peu. Et là, pour le coup, voilà, le faire sur une seule main, ça fait vraiment perdre beaucoup, beaucoup d'intérêt à la dimension mentale d'une épreuve d'endurance. Et c'est ça l'intérêt des épreuves d'endurance. Donc, et c'est une tendance que je regrette à la fois dans Koh-Lanta et dans Survivor pour ceux qui suivent Survivor. Et là, voilà. Donc, du coup, ça fait quand même deux gros éléments à charge contre l'épreuve. Et voilà, ça fait que j'ai pas été un grand adepte du choix de l'épreuve par la production sur cet épisode.
Ouais, moi je suis pas fan non plus des épreuves individuelles qui font gagner le collectif. Parce que tu dépends que de toi et toi-même tu dépends pas des autres et je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas. Après oui, c'est vrai que les conditions météo ont fait que la prod a mis cette pas une pénalité, mais cet handicap au candidat. Peut-être aussi parce qu'il fallait pas battre le record de Claude. Attention, il faut pas battre le record de Saint-Claude. je dis ça en plaisantant, évidemment. Mais oui, voilà. Pour moi, en face par équipe, il y a tellement de possibilités à faire des épreuves collectives. De réflexion collective, il y a beaucoup de choses à faire que des épreuves individuelles de statique comme ça, on en a assez aussi pour les post-réunification, que pourquoi nous les balancer avant, enfin je vois pas le truc qui peut apporter au jeu, quoi.
Perso, j'ai l'espoir qu'on aura moins d'épreuves statiques après la réunification, mais évidemment je me berce d'illusions.
Alors, petit spoil, il y a des chances qu'on ait l'épreuve des poteaux.
Oh, non, là. Non, mais là, désolé, ce genre de spoil, faut pas le dire à l'antenne, Arnaud.
Chez les jaunes, Lucie et Vincent sont évoqués pour le conseil. Mais Shanice a un tout autre plan en tête.
Il est en pleine confiance, Aurélien.
Ah ouais?
Ah ouais. Il vient nous voir et il pense être le maître du jeu. Il dit, c'est entre Vincent et Lucie. Je déteste cette attitude. Ils sont vraiment... Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, là, sur le côté humain.
Ah, moi aussi, hein. Mais j'attends le bon moment pour lui dire.
Oui, mais le problème, c'est que si on l'enlève pas maintenant, ce sera hyper difficile de l'enlever.
Tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, Shanice, il m'énerve, Aurélien. Oh, Shanice, il met une mauvaise ambiance. » Tous les jours.
Mais je l'avais promis de pas voter pour lui, donc...
Si on n'est pas sûr de vouloir le faire partir, faut pas voter contre lui, parce que sinon, la prochaine fois, c'est moi.
Non, mais toi, fais attention, hein, parce que tout à l'heure, il est venu nous voir en disant « Les Vincent... » C'est peut-être celui qu'on doit enlever aujourd'hui.
Oh ah bah oui, frère. Alors là, moi, ça passe pas du tout. Je l'ai en travers de la gorge. Donc, à partir du moment où on prononce mon prénom pour voter contre moi, ça devient ma cible directe.
Il faut être intelligent. Si on n'est pas 5 à voter contre lui, on ne peut pas voter contre lui, sinon ça va lui mettre la puce à l'oreille pour la prochaine fois. De toute façon, les gars, c'est simple. Il en faut 5. Il faut que 5 personnes votent contre
lui. Il y a combien de personnes?
4.
Myriam, moi, Vincent.
Il faut que tu me suives. Regardez pas, attends. Je suis la balance qui va faire la différence entre les deux aventuriers qui sont sur la sellette, dont Aurélien et Lucie.
Alors, on voit Shanice qui prend enfin les rênes de la stratégie et qui rameute les personnes autour d'elle pour renverser leur ordre établi et faire chuter Aurélien. Donc, Vincent, qui était visé par Aurélien, donc s'est ramené très très facilement. Donc, il y a Lucie qui était avec lui, Myriam a suivi, et le dernier, c'était Thomas. Et Thomas, qui était très ami avec Aurélien, et qui savait pas trop sur quel pied danser. Et moi, vraiment, je voulais revenir sur Shanice, parce que Shanice, qui parle lors du conseil, qui parle d'intelligence émotionnelle, qui parle de symbiose dans l'équipe, c'est tellement rare, et qui parle de mérite, et qui lui dit, en gros, qu'est-ce que c'est le mérite, en gros, tout ça, c'est de la connerie. C'est rare, ça fait du bien, ça fait tellement de bien de voir quelqu'un qui réfléchit et on l'entend dire tout simplement, voilà, de toute façon c'est simple, faut qu'on soit 5. Alors ok, c'est très basique, mais dans Koh-Lanta, il y en a tellement peu, il y en a tellement qui vont vouloir penser groupe et qui vont pas penser hiérarchie dans le groupe et comment renverser l'ordre établi. C'est vraiment, Shanice a été vraiment l'une des grandes surprises de cet épisode Twitter l'a détesté parce que c'est une femme, forcément, mais c'était une grande surprise cet épisode, je l'ai adoré, je pense qu'elle ira vraiment très loin et que son move était très très bien fait. Alors, pareil, donc les gars, vous, Shanice, le move de Shanice, Thomas et tout, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Donc, concernant Shanice, déjà, pour revenir à ce que tu disais sur les réseaux sociaux, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que pour elle, c'était plus atténué que pour Maxine. Alors, j'ai vu quand même pas mal de personnes, et en dehors de la petite fanbase des pros stratégiques qui est autour de gars comme Cédric et Ahmad, qu'on salue encore une fois, vu que c'est quand même nos chouchous sur ADF. Mais disons que même au-delà de toute la petite sphère des prostrates, on a quand même vu des gens trouver ce qu'avait fait Shani, c'était bien. Donc voilà, il faut quand même le souligner. Là encore, je dis, c'est parce que le montage a été beaucoup plus équilibré que sur d'autres fois. Mais voilà, c'est quelque chose à souligner, c'est que je pense que niveau réseaux sociaux, je pense que tu exagères, enfin pas que tu exagères, mais que tu le vois de manière un peu plus unidimensionnelle que ce qui s'est vraiment passé, même si, bon, forcément, il y a des tas de gens pour qui le fait d'avoir pêché un panier de crabes, ça devrait te mettre sur les poteaux automatiquement. Mais bon, ça, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Voilà, maintenant, pour revenir au coup en lui-même de Shanice, c'est vrai que c'est très, très, très intéressant. C'est comme tu le dis, c'est qu'il n'y a pas que question de groupe, il y a question de hiérarchie. Et là, tu as très bien fait de le souligner, Damien, c'est que quand il y a une hiérarchie, tu sais que le leader, oui, c'est lui qui prend les coups. Et c'est pour ça qu'on avait dit que prendre un rôle de leader, ça double tranchant. Mais c'est aussi avoir une influence. Et disons que voilà, Shanice, elle s'est dit qu'il fallait couper cette influence d'Aurélien au plus vite. C'est-à-dire que non seulement elle ne l'apprécie pas, non seulement si c'est lui qui a l'influence, ce n'est pas elle qui l'a. Et il y a aussi la dimension dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que après son élimination, on va être, je crois, 14. Enfin, sauf si je me trompe, vu que j'ai pas trop fait les calculs malheureusement avant cet épisode. Mais disons que on sait que la réunification arrive souvent vers ce stade-là, à 13 ou 14. Donc on sait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour tenir derrière. Donc à ce moment-là, trancher quelqu'un qui est plutôt bon en épreuve, qui est très bon en survie, c'est pas aussi dangereux que de le faire au tout début de la saison quand l'équipe est un peu démunie. Alors que là, quand tu le fais juste avant la réunification, tu ne subis pas trop de conséquences. Et en plus, tu te débarrasses de quelqu'un qui peut être très, très gênant passer la réunification, vu que, en plus, le fait qu'il ait l'air de les vilipender et tout, on pourrait mine de rien se dire que si les rouges sont un peu plus survivialistes que les jaunes, peut-être que il pourrait se rallier aux rouges. Et qu'avec le groupe de personnes qui lui font le plus confiance, ça pourrait faire une majorité qui mettrait justement en danger le groupe de jaune qui est plus sur l'axe de pensée de Shanice. Et donc, de ce fait-là, c'est vraiment un très bon timing de la part de Shanice. Donc là, non seulement je pense qu'à long terme, le coup peut être bon, après, bon, à long terme, on ne le saura que quand on aura, les conséquences à la fin de la saison. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, on le dit tous, mais... disons que on a quand même l'impression que, contrairement à la semaine dernière où il y avait une petite retenue par rapport à ce qu'avait fait Maxine et Laure, et pas seulement sur le plan des propos de Laure, là on se dit que à long terme il y a de bonnes chances que ça marche et que à court terme voilà l'exécution est très bonne. Il faut 5 voix, pas une de plus. Et là c'est vrai que c'est tout basique, mais c'est que les gens recherchent trop des votes consensuels par moment. Là vraiment ils ont cherché pile ce qu'il fallait, il n'y avait pas besoin de prévenir plus de monde qu'il le faut. Et pendant qu'on parle de ce coup-là, j'aimerais aussi souligner l'attitude de Laetitia qui était très très intéressante. C'est que en laissant faire, mine de rien, c'est quelque chose de très intéressant de sa part. C'est que en prenant pas position, mine de rien, c'est garanti pas mal d'options pour la suite. Je ne sais pas si son talisman sera toujours valide vu que j'ai vu des termes contradictoires autour. Mais disons que au moins elle n'a pas pris Aurélien sur son dos alors qu'elle n'en avait pas forcément envie. Et ça, disons que c'est quand même une marque d'indépendance de sa part qui est très très intéressante pour la suite. Et franchement, pour le talisman, je ne sais pas vraiment la règle là-dessus. Si jamais il y a quelqu'un qui le sait plus sur le chat, qui nous le dise. Mais si jamais le talisman est toujours valable, en plus, c'est un très bon coup, quoi, vu qu'elle se débarrasse de la possibilité que Aurélien le joue si jamais elle l'avait prévenu. Vu que si elle l'avait prévenu, il l'aurait joué à 100%. Il faut pas se bercer d'illusions.
Ben oui, pour moi, Shani, c'est la révélation de l'épisode, vous l'avez déjà dit. Mais je tiens à souligner que toute la tribu était au courant qu'Aurélien était en danger et que personne ne l'a dit à Aurélien. Preuve de l'intelligence sociale de Shanice qui a su dire les bons mots, expliquer le pourquoi du comment à tous, parce que même les personnes les plus proches d'Aurélien, comme Thomas l'a voté, Mathieu et Laetitia ont dit qu'ils ne voteraient pas Aurélien par loyauté, mais n'ont pas révélé à Aurélien qu'il était en danger. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent de la part de Shanice. Je trouve que Shanice a joué très intelligemment parce que elle ne s'est pas fait griller, parce que au moment où elle se faisait griller, Aurélien sortait son arme, Lucie sortait et Shanice aurait pu être beaucoup plus en difficulté ensuite. T'avais parlé de Laetitia que sur ADF tout le monde sait que j'adore cette femme parce que. Mais là, je trouve que Laetitia a en effet très bien joué en ne révélant pas, parce que elle a montré qu'elle était loyale. Elle a montré par son vote qu'elle était loyale à Aurélien, mais en ne révélant pas qu'il était en danger, elle a pu se replacer en. Elle peut entre guillemets faire sa publicité en mode ma loyauté est à vendre, prenez avec moi, on ira loin ensemble. Peut-être que c'est pas conscient, Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas, mais je trouve que c'est très bien joué en tout cas.
Shanice, moi j'adorais. Hein, Damien, tu dis qu'elle a pris les rênes de la stratégie, mais c'est normal parce que c'en est une reine. voilà. Oui, je suis très poétique cet après-midi, ou ce soir pour ceux qui écoutent le podcast le soir. Ou le matin, ouais. On va faire toutes les. Mais non, j'ai trouvé Shanice très intelligent dans la stratégie. Déjà, elle a pris Aurélien par les épaules, elle l'a envoyé sous le bus conduit par Vincent, en disant que Vincent était ciblé par Aurélien. Et on l'entend d'ailleurs dans l'extrait où Vincent a dit, moi, à partir du moment où on évoque mon nom, ben ça en fait une cible de fait. Elle a été maligne aussi pour rallier Thomas, parce que Thomas, il avait les fesses un petit peu entre deux chaises. Donc du coup, Thomas, c'est là où, dans son portrait, il disait qu'il fallait être filou. Là, il l'a été, parce que, on arrive vers la réunification. Je ne sais pas s'ils étaient au courant que la réunification serait très proche, mais là, il s'enlève une éventuelle épine du pied. Donc voilà, je trouve que Shanice a royalement bien joué. Je pense qu'elle a toute la capacité pour aller loin dans le jeu, parce que on l'a vu, elle cumule, on en revient à ces fameux 4S, où elle a beaucoup de social, hein, parce qu'elle est en très bonne position dans sa tribu, parce que mine de rien, même quand elle évoque la stratégie et l'éventualité de voter contre Aurélien à Laetitia, et à Mathieu et à Flavio, ceux-là ne vont pas répéter à Aurélien, parce que ils auraient pu le faire, hein, leur dire attention, il y a Shanice qui veut voter contre toi et que c'était en danger. Il aurait pu très bien se retourner après contre Shanice, mais je pense que son social a énormément joué là-dessus. Et donc voilà, stratégiquement, elle est forte. Et sportivement, on voit qu'elle a été performante sur les épreuves. Je pense qu'elle a beaucoup à montrer par la suite. Donc, je la vois aller très loin. Et après, on parlait de qui, je ne me souviens plus. De Koala, tu parlais de Laetitia, oui. Laetitia, Laetitia, elle a finement joué également, parce que elle avait un avantage lié à Aurélien avec le talisman. Donc elle n'allait pas se dévoiler comme ça aux yeux de tout le monde. Elle le dit, il y a les binômes, Aurélien m'a promis qu'il ne voterait jamais pour moi, et moi j'ai promis que. On se doute que c'est surtout pour le talisman et pour donner une force au binôme après la réunification. Malheureusement, elle n'aura pas l'occasion d'utiliser le talisman cumulé. Après, est-ce qu'elle l'aura elle pourra le faire pour sa partie à elle, ça je sais pas, comme l'a dit Gino. Il y a le débat, même là dans le chat, il y a le débat. Donc bon, à voir, mais en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié Shani, c'est ma révélation. Je parle vraiment, l'an dernier, j'avais vu Alexandra aller très loin, il y a 2 ans, j'avais vu Nawel aller très loin et ça s'était bien révélé. Je ne sais pas ce qui se passe après, je vous le promets, mais voilà, Shani est ma favorite à moi.
Alors ensuite, on voit aussi, bon, ça pourra peut-être servir pour la suite, que Laure trouve un avantage secret qui pourrait être ambassadeur secret, donc ça je sais pas trop ce que ça pourrait être. Et du coup, c'est ainsi que se termine un peu cet épisode où il y avait beaucoup de choses à dire, mais ensuite on va passer au jeu, donc Arnaud, maintenant c'est toi qui prends les rênes.
Mais c'est un jeu!
C'est pas du jeu, on joue plus!
Je pense que tout va se jouer demain.
Là, il n'y a plus de questions à se poser, la gagne.
Et oui, messieurs et messieurs, dames, pour celles qui écoutent et qui sont dans le chat, j'ai prévu quelques petites questions, savoir si vous avez bien suivi l'épisode, si vous avez bien suivi le podcast aussi, parce qu'il y a des réponses qu'on a évoquées dans le podcast. Donc, ça sera votre attention qui jouera. Donc, on va commencer par une petite question qui est chère à Freeze. On va commencer par un...
C'est l'heure du...
Qui a dit
fait toujours du bien.
Qui fait toujours du bien. qui a dit « Oh non, coco grillé, coco à plat, coco blanc, coco dur, j'en peux plus. »
Thomas.
Bonne réponse de Koala. Un point pour... Voilà, donc c'est bien Thomas. C'est le matin où les filles proposent de faire du lait de coco ou du jus de coco. Il dit non, il n'en peut plus. Thomas, le blanc manger coco, il n'en peut plus.
Et on le comprend parce que c'est vraiment un jeu de merde. Pardon.
Ensuite, 4 autres questions. La première, pour l'épreuve de confort, donc, qui chez les jaunes, qui tire la boule noire?
Shanice.
Non.
Laure.
Non plus. Non. Chez les jaunes.
Les
jaunes.
Myriam.
Non plus.
Lucie.
Non plus. Il n'en reste plus qu'une.
Laetitia.
Ah ouais, j'ai en même temps Gino et Koala. En même temps, donc je vous donne tous les deux le point. Je suis gentil comme ça, c'est esprit école des fans.
Oui.
Oui.
Un point pour Koala, un point pour Gino.
Je remercie mon papa et ma maman dans le public là-bas.
Qu'est-ce qu'il fait avec le
Il est chômeur.
Alors là, ça va être une question, savoir si vous avez bien suivi et le podcast et l'épisode. Lors du conseil surprise, qui vote pour Jonathan? Ok, donc personne n'a suivi.
Gabin.
Gabin, bien joué Koala. 3 points pour Koala qui littéralement déglingue le game.
Je suis venu pour tout défoncer.
Damien, t'as le droit de jouer aussi. Hein.
Oh, mais je sais pas, moi je vous laisse faire du coup.
Oui, tu peux jouer, hein, Damien, hein, tu es autorisé. Hein. Toi qui adores les jeux télé, qui perds souvent aux jeux télé, tu as le droit de perdre aussi à ce jeu.
Hein. Voilà, comme si t'avais pas fait exactement pareil que moi, toi.
Ça ressort les dossiers.
On embrasse Catherine.
Moi je l'embrasse pas, moi je oui. Enchaîne.
Combien faut-il de poissons selon Aurélien lors de sa pêche avec Flavio?
8.
9.
Alors il y a eu un 8 et un 9, c'est ça?
Oui.
Qui c'est qui a dit 9?
Koala.
Oh là là, Koala, encore une fois le point. 4 points pour Koala, va-t-il faire le grand chelem? Dernière question.
Ah, mais...
Dernière question. Quel est l'aventurier à lâcher en premier à l'épreuve des cochons pendus?
Difficile.
Vincent? Non.
Et le chat qui a déjà trouvé?
Arnaud.
Oui, bonne réponse de Damien. Damien qui sauve l'honneur.
Et bah, c'est regardez le chat surtout, merci. Merci Caro et Hugo.
Oh putain, et voilà, je pensais que tu avais du mérite, bah non, même là tu le niques le mérite.
Hein. Oh bah, il nique le mérite, hein, toujours.
Voilà, bah, belle victoire de Koala sur ce jeu qui remporte 4 points et qui repart avec ce dictionnaire de la survie, bravo.
Oh merci, je vais pouvoir le brûler.
C'est ça que tu feras du feu. Eh ben, cet épisode touche à sa fin. Il a été long parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors forcément, ben, je vais vous remercier. Merci Arnaud.
Eh ben, merci à toi, Damien. Merci à Gino et à Koala également. C'était vraiment appréciable de parler avec vous.
Merci à Gino d'être intervenu 2 semaines de suite.
Merci à tous. Et puis, j'aimerais juste avoir un dernier mot, c'est que je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à rejoindre le serveur Discord d'ADF, parce que on fait de nouveau les tournages tous les dimanches vers 14h. Bon, il y a quelques fois, on décale un peu, mais normalement, c'est vers 14h. Et si jamais vous voulez écouter le podcast en direct en version non censurée, vu que bon, Damien est quand même parfois obligé de censurer un peu.
C'est vrai.
Mais si vous voulez l'entendre en direct, en version non censurée, et interagir avec nous en direct pour donner votre avis, et puis peut-être nous donner des idées de thématiques que nous, auxquelles on n'a pas pensé, vu que voilà, on a beau avoir une expérience du jeu, aucun de nous n'a la science infuse. Donc si jamais vous voulez faire ça, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord d'ADF. Et je pense que les liens sont sur le Twitter ADF.
Oui, oui, voilà, si vous allez y venir, vous pouvez retrouver le Twitter d'ADF sur ADF Podcast au pluriel sur Twitter et Autour du Feu sur Instagram. Il y a le lien du Discord sur les deux plateformes.
Et aussi sur Minitel au 3615 Autour du
Feu. 3615 ADF, voilà. C'est entre 3615 ULA et 3615 TF1.
Alors, et d'ailleurs, vous pourrez gagner un pins parlant d'SLZ.
Mais maintenant, on l'appelle plus SLZ, on l'appelle la divinité de
Et puis, attends, bah, Koala, parce que du coup, c'est vrai qu'on a les deux qui ont beaucoup parlé, mais toi, t'as pas mal parlé aussi. Donc, merci Koala d'être venu avec nous.
Bah, merci à vous. C'est un plaisir d'enregistrer ce premier podcast avec vous. Et. Peut-être une prochaine fois. J'espère avoir été intéressant un petit peu quand même.
Ah oui, bah oui. T'inquiète pas, il y a eu pire lors de la saison 1 d'ADF, on ne citera pas de nom.
On vous invite à les réécouter.
Mais après, voilà, j'aimerais souligner à Koala, c'est que le premier podcast est toujours un petit peu difficile. Donc...
Comme toutes les premières fois.
Oui.
C'est ça.
Oh, moi, ça allait la première fois.
Et ben, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode de la réunification de cette saison des armes secrètes. C'était Damien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.